Ce soir, j'ai choisi de parler sur la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais avant de passer à l'étude, voulez-vous baisser la tête avec moi? Père Céleste, nous te remercions d'être ici à Genève, d'être parmi des frères et des sœurs, des amis qui t'aiment et qui veulent te connaître davantage. Et nous te prions, Père, que par les cantiques que nous avons chantés, par la lecture de ta parole, par les études que nous allons faire ensemble, que ce désir soit accompli pour chacun de nous. Donc, veuillez nous accompagner, veuillez nous aider, Père, à accomplir tout à fait ce que tu désires de nous en ces moments. Garde-nous, guide-nous, protège-nous et sauve-nous, Père, par ta grâce, au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Vers l'an 58, après Jésus-Christ, l'apôtre Paul, se trouvant dans la ville de Corinthe, a voulu écrire une lettre. Nous appelons parfois ces lettres épîtres, c'est la même chose, à l'église à Rome. Et nous appelons cette lettre l'épître aux Romains. Et dans cette épître, il avait l'intention d'exposer l'évangile qu'il prêchait, le message du salut qu'il prêchait. Et il a préfacé la grande partie de sa lettre par les versets qui sont assez connus dans le premier chapitre, aux versets 16 et 17, en disant « Je n'ai pas honte de l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs, car en celui-ci, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Comme il est écrit, la foi vivra par la justice. » Donc, Paul expose l'évangile, qui veut dire « bonne nouvelle » à ceux de Rome. Et nous avons l'avantage d'avoir cette épître, cette lettre, dans le recueil que nous appelons le Nouveau Testament. Et ce soir, nous voulons voir un peu ce que l'apôtre Paul dit au sujet du salut par la grâce de Dieu. C'est le sujet principal de cette épître, la justification, la manière par laquelle Dieu rend juste les hommes qui ont la foi en lui et en son Fils, Jésus-Christ. Le message du salut, pourtant, ne serait pas une bonne nouvelle si, tout d'abord, il n'y avait pas une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du salut. Vous savez, celui qui a la figure sale ne se donnerait pas la peine de se laver, à moins de le savoir. Celui qui est malade, peut-être gravement malade, et ne le sait pas, ne fera rien pour être guéri. Il faut que nous sachions quel est notre état, quelle est notre condition pécheresse. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, que de savoir que nous sommes pécheurs et que nous sommes condamnés devant Dieu à cause du péché. Mais c'est cela que Paul fait savoir tout au début de cette épître. À partir du verset 18, dans le premier chapitre, il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Ici, il parle particulièrement des païens, du monde non-juif, qui n'avaient pas connu le Dieu, ou qui ne connaissaient pas le Dieu réel, le vrai Dieu, qui suivaient l'idolâtrie, qui vivaient dans toutes sortes de péchés et d'immoralités. D'ailleurs, c'était un état très dégradant où il vivait à cette époque-là. Et Paul nous fait comprendre que ces personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas le vrai Dieu et qui ne connaissaient pas la loi mosaïque qui était connue par les Juifs, ils avaient besoin de l'Évangile. Écoutez donc ce qu'il dit. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, il fut un temps que même le monde païen avait connu Dieu, mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, il y avait des sages parmi les païens, il y avait leurs savants, il y avait leurs philosophes, mais se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, dit l'apôtre, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contraires ou contre la nature. Il parle du lesbianisme. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Voilà donc à quel point le monde païen s'était dégradé, dans le péché, dans l'immoralité, en plein. Mais ce n'est pas la fin. Il continue la réquisition de cette dégradation morale et spirituelle en disant, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Ce serait presque comme si vous lisiez le journal du matin, n'est-ce pas? Et voilà à quel point le monde païen s'était dégradé. Ce monde avait besoin d'un message du salut. Ce monde avait besoin de l'Évangile. Mais je pense que le monde qui a été décrit par l'apôtre Paul, et c'était le monde païen de l'époque, n'est guère différent au monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Et que le monde aujourd'hui a aussi besoin de l'Évangile. Il y a dans le monde à l'heure actuelle, l'immoralité en plein, il y a la même dégradation spirituelle, et les hommes aujourd'hui ont besoin de l'Évangile. Et Paul parle aussi des Juifs, qui étaient des gens très religieux. Ils s'attachaient beaucoup à la loi mosaïque. Ils se vantaient de leur état choisi, élu devant Dieu. Mais est-ce qu'ils étaient meilleurs pour la cause? Les Juifs qui avaient la loi, qui avaient la circoncision, qui étaient le peuple élu de Dieu? Pas du tout. Tu es inexcusable, qui que tu sois. Toi qui juges les autres, car en jugeant les autres, tu te condamnes soi-même. Les Juifs n'avaient pas gardé la loi que Dieu leur avait donnée. Ils étaient coupables d'avoir violé les commandements de Dieu. Ils vivaient dans les mêmes péchés. en grande partie que le monde païen. Donc l'apôtre Paul dit que leur condamnation était encore plus grande du fait qu'ils devaient savoir mieux. Ils avaient été éclairés par la loi, mais non, ils étaient aussi coupables. Et le fait qu'ils connaissaient Dieu voulait dire que le jugement était plus sévère à leur égard. Ainsi, l'apôtre continue dans le chapitre 2 et aussi dans le chapitre 3 à montrer que ni les païens, ni les juifs n'avaient gardé les préceptes de Dieu et qu'ils vivaient tous les deux dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu. Et ainsi, nous y arrivons au verset 19 du chapitre 3. Et ici, l'apôtre dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Personne ne peut s'excuser. Personne ne peut se justifier devant Dieu. Toute bouche sera fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que ce soit juif, que ce soit païen, tout le monde doit être reconnu comme étant coupable devant Dieu. » Et puis il dit la même chose au verset 23, où il parle de nouveau de cet état général du péché dans le monde. Verset 23, « Car il n'y a pas de distinction entre juifs et païens à ce sujet, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, lorsque je vois cela, je me vois dans le cas. Je me vois aussi dans le nombre de ceux qui sont pécheurs et qui sont privés de la gloire de Dieu, car nous sommes tous dans le cas du péché. Ainsi, l'apôtre Paul, après avoir montré que nous sommes pécheurs et que nous sommes condamnés devant Dieu à cause du péché, nous montre que sans l'intervention de Dieu, il n'y a pas de remède. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et nous devons ainsi dépendre de l'intervention divine. Nous devons dépendre de la grâce de Dieu. Ainsi, nous lisons au verset 24, en continuant la lecture dans le chapitre 3. Tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Après avoir montré la mauvaise nouvelle que nous sommes pécheurs, Paul nous montre qu'il y a de l'espoir et que Dieu lui-même est intervenu. Non pas parce qu'il était obligé de le faire. Dieu ne nous devait rien. C'était nous qui avons péché contre lui. Mais Dieu, par sa grâce, par sa faveur, non méritée de notre part, Dieu est intervenu pour nous sauver. Et il l'a fait, dit-il, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais comment l'a-t-il fait? Évidemment, ceux qui ont péché sont coupables. Ils méritent la punition. Ils méritent la condamnation. Ils méritent d'être envoyé donc à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'apôtre le dit plus loin, chapitre 6, verset 23. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous soyons rachetés de cet état de condamnation? Il nous le dit au verset 25. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Donc, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, dans le monde pour qu'il subisse à notre place la punition que nous méritions. Et Jésus est mort sur la croix pour payer la rançon de nos fautes, de nos péchés. Il était innocent. C'était l'agneau de Dieu, sans péché, qui a pris sur lui le poids écrasant de nos péchés et les a portés dans son corps sur le bois du calvaire. Donc c'est ici que Dieu a fait le nécessaire pour nous arracher de la condamnation, pour nous sauver du péché et pour que nous soyons justifiés, que nous soyons en bonne relation avec lui. Nous qui avions nous étions rebellés contre lui. Et il nous dit que c'est par la foi que nous avons la possibilité ainsi d'être sauvés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On se demande parfois, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus porte lui-même nos péchés sur le calvaire? C'est parce que Dieu est un Dieu de justice. Et la justice exige que le coupable subisse la pénalité de son péché, de son crime. Un juge dans les cours ordinaires du pays qui ont devant eux des criminaux, des criminels, des gens qui ont commis des crimes, ceux qui sont réellement coupables ne seraient pas des juges justes s'ils laissaient partir les criminels sans exiger que les criminels paient la pénalité de leur péché, soit la prison, soit une amende, mais ils doivent payer la pénalité de leur crime, de leur méfait. Le juge ne serait pas juste s'il disait aux accusés ou aux criminels, « Va-t'en, je te pardonne. » Il faut que le criminel paye la pénalité de son méfait. Dieu est un Dieu dont le fondement de son trône est justice. Il est nécessaire que Dieu soit juste dans tous ses agissements, dans tout ce qu'il fait. Ainsi, Dieu a voulu le salut du monde. Dieu veut que les hommes reviennent à lui et qu'ils soient réconciliés avec lui. Mais Dieu ne pouvait pas être juste s'il n'exigeait pas la pénalité de nos méfaits, de nos péchés. Comment Dieu pouvait-il réconcilier ainsi, d'un côté, une miséricorde insondable qui veut que le monde soit sauvé, et de l'autre côté, sa justice infinie qui exige que le péché soit puni? Comment peut-il trouver la réconciliation? Mais Dieu l'a trouvé dans sa sagesse infinie sur la croix. Et sur la croix, Dieu pouvait être juste tout en justifiant le coupable. Et c'est ce que Paul nous dit dans le verset suivant. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà pourquoi Jésus devait mourir. C'est lui qui a écopé la pénalité que nous méritions. Et en voyant la mort de son Fils sur la croix, la justice de Dieu a été satisfaite. Et Dieu peut ainsi être juste en justifiant celui qui a la foi, qui accepte le sacrifice de Jésus, qui croit au sang expiatoire de Jésus sur la croix. Voilà donc ce que Paul appelle la grâce de Dieu. Dieu est juste et il justifie ceux qui ont la foi en son Fils. Comment pouvons-nous obtenir cette justification? Comment pouvons-nous jouir de cette grâce que Dieu a faite? Ce don gratuit de son salut, parce que Dieu nous l'offre gratuitement. Comment pouvons-nous en profiter? Mais premièrement, ce n'est pas par nos actes de justice que nous aurions pu faire. Nous ne pouvons pas mériter le salut par nous-mêmes. Nos bonnes œuvres seraient insuffisantes. Dieu n'a pas besoin de cela. Tout ce que nous pouvons faire pour mériter ce salut serait parfaitement inutile. L'apôtre Paul dit à Timothée, en 2 Timothée, chapitre 1, au verset 9 et 10, « C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Dieu avait prévu cela même avant la fondation du monde. Mais ce n'est pas par nos œuvres, aussi bonnes, aussi charitables qu'elles soient. Dieu nous sauve uniquement par sa grâce. Et ainsi, l'apôtre, en écrivant à Tite, chapitre 3, au verset 4 et 5, lui dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. » Nous allons parler de ce bain de régénération dans un instant. Mais il suffit de dire que nous ne pouvons pas mériter notre salut. Toutes nos œuvres, toutes nos prières, toutes nos larmes même, seraient parfaitement insuffisantes pour gagner le salut de Dieu. C'est uniquement par grâce que Dieu nous sauve. Plutôt, nous sommes sauvés par la foi. Et c'est ainsi que Paul dit que ceux qui ont la foi dans le sang expiatoire de Jésus jouiront de cette rédemption que Jésus a procurée pour nous sur le calvaire. La grâce de Dieu, dans les écrits de Paul, veut dire toute l'initiative de Dieu pour le salut du monde. Tout ce que Dieu a fait pour sauver le monde. Il a envoyé son Fils unique sur la terre. Jésus est venu, il a vécu dans la chair. Il a été tenté comme nous. Il a souffert comme nous dans la chair. La grâce de Dieu comprend aussi la mort de Jésus sur la croix. Elle comprend le sang qui a été versé pour nous dans la mort de Jésus. Elle comprend la résurrection de Jésus. Même l'évangile est une expression de la grâce de Dieu. Donc quand Paul parle de grâce, la grâce de Dieu, tout cela est compris dans la grâce de Dieu. Or, Paul nous dit que nous avons accès à cette grâce par le moyen de la foi. Dans ce chapitre, il nous montre au chapitre 4, par exemple, à partir du verset 4, « Or, à celui qui fait une œuvre, si, comme si nous pouvions faire quelque chose pour mériter le salut de Dieu, celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme une chose due. Celui qui travaille toute la semaine et qui reçoit son salaire à la fin de la semaine, est-ce qu'il compte cela comme une grâce de son patron? Mais non, il a gagné son salaire. Il a mérité, il a travaillé pour son salaire. Donc Paul dit, c'est lui qui fait une œuvre, comme s'il pouvait gagner le salaire par ses œuvres bonnes, ou charitables, ou que sais-je. Eh bien, ce n'est pas compté comme une grâce, ce serait compté comme une chose due. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, qui ne compte pas sur ses œuvres, mais qui compte uniquement sur la grâce. Il ne fait pas d'œuvre, mais il croit en celui qui justifie l'impie. Alors sa foi, lui, est comptée comme justice. Dieu reconnaît la foi des hommes qui acceptent le sacrifice de Jésus comme étant justice pour eux. C'est reconnu par Dieu. C'est imputé par Dieu comme justice. La foi. Ainsi l'apôtre Paul en écrivant aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, leur dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit que cela ne vient pas de nous, comme si nous pouvions le gagner d'eux-mêmes. Mais c'est Dieu, c'est le don de Dieu. Ainsi, Dieu nous fait don gratuit du salut. Nous ne pouvons pas le mériter. Mais lorsque Paul parle de foi, il faut aussi reconnaître que la foi comprend aussi tout ce que l'homme doit faire pour accéder à la grâce de Dieu. Et dans le langage de Paul, grâce veut dire tout ce que Dieu a fait, toute l'initiative de Dieu, tous les actes de Dieu pour le salut du monde. Et foi, dans les écrits de Paul, comprend tout ce que l'homme fait pour exprimer sa croyance dans le sacrifice et dans l'œuvre de grâce que Dieu nous a faite. Donc nous voyons ici que si nous sommes sauvés par grâce, c'est par le moyen de la foi. Mais la foi doit aussi se manifester. Il y a des manifestations de la foi qui sont absolument nécessaires. Nous sommes sauvés par la grâce seulement, mais nous ne sommes pas sauvés par la grâce seule. Nous sommes sauvés seulement par la foi, mais nous ne sommes pas sauvés par la foi seule. Tout comme la grâce devait s'exprimer par les actions de Dieu, la foi doit s'exprimer aussi par la soumission et l'obéissance de l'homme. Ainsi, dans la parole de Dieu, il est parlé des œuvres ou de l'obéissance de la foi. Parfois, l'Épître aux Romains, qui parle si souvent de la justification par la grâce, moyennant la foi, parle aussi de l'obéissance de la foi. Déjà dans le premier chapitre, au verset 5, l'apôtre Paul a parlé de son ministère, et il dit que son ministère était pour amener à l'obéissance de la foi le monde païen. Dans le chapitre 15, au verset 18, il parle de l'obéissance. Dans le chapitre 16, au verset 26 et 27, il parle de l'obéissance de la foi. Donc, pour l'apôtre Paul, la foi n'est pas inactive. La foi n'est pas seule, si vous voulez. La foi n'est pas insoumise. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas une foi sans œuvre, sans obéissance. Mais elle se manifeste par notre soumission à la volonté de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul dit dans le chapitre 6 de cet épître, à partir du verset 15 et 16, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Si on se rend volontairement obéissant à quelqu'un, on devient esclave à celui à qui on obéit. » Alors il continue à dire que celui qui obéit au péché devient esclave du péché. Celui qui obéit à Dieu devient par là serviteur ou esclave de Dieu. Mais grâce à Dieu, dit-il, après avoir été esclave du péché, et tel fut le cas pour chacun de nous, à un moment donné, nous avons été esclaves du péché, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Aussi longtemps qu'on se livre esclave du péché, esclave de la désobéissance, de la rébellion contre Dieu, on est esclave du péché. Aussi longtemps qu'on obéit à ses passions de la chair, on est esclave du péché. Mais quand nous avons obéi, dit Paul, à la règle de doctrine qui nous a été transmise, nous sommes en ce moment-là libérés de l'esclavage du péché et nous devenons en ce moment esclaves de justice ou esclaves de Dieu, serviteurs de Dieu. Si on dit esclaves, c'est parce que Paul parle à la manière des hommes, mais nous devenons serviteurs de Dieu et libérés du péché, de l'esclavage du péché, quand nous obéissons à la règle de doctrine qui nous a été transmise. Or, la question se pose, quelle est cette doctrine dont il parle? Quelle est la doctrine qui nous a été transmise? L'apôtre Paul, dans plusieurs de ses écrits, mais notamment dans le 15e chapitre de 1 Corinthiens, nous montre quelle était fondamentalement la doctrine qu'il enseignait, qu'il prêchait. « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est ce même évangile dont il n'avait pas honte. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Et voici donc la doctrine, en quelques mots. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, premier point. Selon les Écritures, deuxième point, il a été enseveli. Troisième point, il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, voici le corps du message de Paul. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Voilà la doctrine qui a été transmise par Paul. Alors, Paul dit, quand vous avez obéi à la règle de cette doctrine, on ne peut pas obéir à une doctrine. On peut le croire, mais on ne peut pas y obéir. Mais on avait obéi à la règle de cette doctrine. Une autre traduction dit à la forme de cette doctrine. Quelle est la règle? Quelle est la forme de la doctrine que Paul avait prêchée? Eh bien, il nous dit dans le même chapitre 6 de l'Épître aux Romains, à partir de verset 3. Écoutez ce qu'il dit. Voici donc la règle de cette doctrine. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Voilà le premier point de la doctrine, c'est la mort de Christ. Paul dit, nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. Et puis il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Voilà le deuxième point de la doctrine, c'est l'ensevelissement de Jésus. Et nous, lorsque nous avons obéi à l'évangile, quand nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis, nous avons été plongés dans l'eau, dans la ressemblance à la mort de Jésus. Et puis, le troisième point, de même aussi, vous avez été ressuscités par la gloire de Dieu à la vie nouvelle. Voilà le troisième point, la résurrection de Jésus. Et quand nous avons obéi à la règle de doctrine, nous aussi, nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Donc, Paul ne nous laisse pas dans le noir au sujet de ce que c'est que cette règle de doctrine. La doctrine, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Mais la règle de cette doctrine, la forme de cette doctrine, c'est notre mort au péché, notre ensevelissement dans les eaux du baptême et notre résurrection des eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie. Donc, la doctrine est claire et la règle de doctrine est bien expliquée par l'apôtre Paul. Maintenant, quelle conclusion devons-nous tirer de tout cela? Évidemment, Dieu ne nous doit rien. Dieu reste toujours le même. Il est bon, il est amour. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui nous sommes séparés de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu ne nous devait rien. Vous, comme nous tous, vous avez péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu, malheureusement. Et c'est nous qui sommes redevables vis-à-vis de lui. Et si Dieu nous sauve, quel que soit le moyen qu'il choisit, c'est uniquement par sa grâce, et ce n'est pas que nous l'avons mérité. En dépit pourtant de vos offenses, de mes offenses contre Dieu, Dieu nous aime. Et il veut que nous soyons sauvés. L'apôtre Paul le dit en 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Donc, sans exception, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent au contraire à la repentance. Donc, voilà ce que Dieu veut. Et il veut tant que les hommes soient sauvés qu'il n'a pas hésité de donner son Fils unique, celui qu'il aime, pour qu'il meure sur le calvaire. Afin de nous racheter de nos péchés. Donc, par sa grâce infinie, Dieu nous offre le pardon. Il nous offre la guérison de notre âme. Il nous offre la vie éternelle. Mais n'oublions pas que ce n'est qu'une offre que Dieu nous fait. Il nous le fait gratuitement, il nous le fait par sa grâce, mais c'est une offre, à moins que nous l'acceptions. Alors seulement, il devient le don gratuit. Une offre n'est pas un don. Une offre est une offre. il devient un don uniquement quand l'offre est acceptée. Je pourrais vous proposer, par exemple, une voie de vous offrir ce qui est dans mon porte-monnaie, qui n'est pas grand-chose, bien sûr. Mais je pourrais vous offrir cela. Mais si vous n'avez pas l'accepté, ce n'est pas un don. Ça devient un don uniquement lorsque vous l'acceptez. Le salut de Dieu est une offre de Dieu et est offert à tous les hommes, qui qu'ils soient, quel que soit leur état de péché. Dieu offre son salut à ceux qui viennent à lui par la foi et avec un cœur contrit, repentant, et qui se soumettent à la volonté de Dieu dans l'obéissance à la règle de doctrine que Dieu nous a spécifiée dans l'Évangile par le baptême, alors le don gratuit de Dieu est nôtre. Voulez-vous ce soir accepter cette grâce que Dieu vous offre? Voulez-vous accepter que vos péchés soient pardonnés, que vous soyez guéri de la maladie du péché? Voulez-vous accepter ce salut et témoigner votre foi sincère en obéissant à la volonté de Dieu, le moyen que Dieu a spécifié dans sa parole? Nous ne pouvons pas être sauvés autrement que selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a enseigné dans sa parole. Le choix est à nous. Le choix est à vous. Et nous souhaitons, nous prions que votre choix sera le bon. Que Dieu vous bénisse.